Chapitre 2. La Fontaine et Fouquet. 1657-1663. Avec le caractère que nous lui connaissons, rien d'étonnant que La Fontaine se soit laissé faire lorsque l'oncle de sa femme, Jeannard, homme excellent et serviable, qu'il avait déjà obligé de ses conseils et de sa bourse en maintes occasions, lui proposa de le recommander à son patron, procureur général en même temps que surintendant, auprès duquel il remplissait les fonctions de substitut. La générosité de Fouquet était proverbiale, la grâce dont il accompagnait ses libéralités ne l'était pas moins. Corneille, Brébeuf, Benserade, Boisrobert, Gombaud, Charles Perrault, les plus illustres de l'Académie, s'honoraient d'être ses clients. « Il m'a donné une pension sans que je la lui aie demandée », s'écrie reconnaissant le pauvre cul-de-jatte Scarron sur son lit de douleur. Le surintendant se connaissait en homme. Il flaira du premier coup la valeur du champenois sous ses allures empruntées. Aussi avisés l'un que l'autre, de même humeur gaie et libre, le protecteur et le protégé s'entendirent vite à demi-mot en souriant. Le poète présenta son Adonis, le financier promit une pension. En apportant dans la petite cour de Saint-Mandé et de Vaux, comme spécimen de son savoir-faire, une façon de poème épique, le nouveau venu se conformait au goût régnant, qui allait bientôt faire place à de nouvelles modes. Presque tous les tenants de l'ancienne école poétique, celle de Louis XIII et de la Régence, plus ou moins malherbisé, mais se rattachant encore, par l'habitude ou le regret, au mouvement antérieur du XVIe siècle, venaient de livrer à la désillusion publique leurs essais malheureux de vastes épopées. Le Moïse de Saint-Amand en 1651, le Saint-Louis du Père Lemoine en 1653, l'Alaric de G. de Scudéry en 1654, la Pucelle de Chapelain en 1656, le Clovis de Desmarets en 1657, avaient coup sur coup accablé la patience des plus vigoureux lecteurs. L'Adonis, de proportions moins ambitieuses, d'un style moins enflé, dut paraître un soulagement inattendu. Si ce petit ouvrage, inégal et incertain, n'a pas de quoi nous faire regretter que La Fontaine n'ait pas été encouragée par les événements à suivre la voie périlleuse dans laquelle ses prédécesseurs venaient de s'embourber, on doit pourtant y remarquer une aisance et une rapidité dans le récit, une élégance pittoresque dans la description, un sentiment de proportion, d'harmonie, d'unité, qui révélait mieux qu'un docile élève de Malherbe, qui annonçait un successeur sage et réfléchi de la Renaissance, un interprète ému et libre de l'Antiquité. L'Adonis est un des morceaux qu'André Chénier devait lire plus tard avec le plus de profit. On y retrouve déjà non seulement des vers descriptifs, d'une couleur douce et fine à la façon des Grecs, mais aussi leur enthousiasme tendre et profond pour la nature et pour la beauté, que personne ne devait plus, dans l'intervalle, exprimer d'un langage si suave et si harmonieux. Je n'ai jamais chanté que l'ombrage des bois, fleurs, échos, les zéphyrs et leurs molles haleines, le vert tapis des prés et l'argent des fontaines. Rien ne manque à Vénus, ni les lys, ni les roses, ni le mélange exquis des plus aimables choses, ni le charme secret dont l'œil est enchanté, ni la grâce, plus belle encore que la beauté. Quoi, vous quittez les cieux et les quittez pour moi, il me serait permis d'aimer une immortelle. Amour rend ses sujets tous égaux, lui dit-elle. La beauté dont les traits, même aux dieux sont si doux, est quelque chose encore de plus divin que nous. Ni Pétrarque ni Ronsard n'eussent mieux dit, et le froid malherbe ne connaît pas ces extases délicates. Si l'on pense d'autre part que le jeune Racine, âgé de 18 ans, terminait alors à peine ses études, on doit reconnaître, sur ce point comme sur d'autres à La Fontaine, des mérites de précurseur et d'initiateur que sa personnalité modeste et effacée a trop fait oublier. N'est-ce pas dans l'Adonis que se trouvent aussi ces vers sur la volupté, d'une mélancolie si anxieuse qu'on croit entendre le plus sincère et le plus délicat des poètes contemporains? Ô vous, triste plaisir où leur âme se noie, vains et derniers efforts d'une imparfaite joie, délicieux moment, vous ne reviendrez plus. Ces beaux vers ne pourraient-ils servir d'épigraphe aux vaines tendresses? Et lorsque La Fontaine, un peu plus tard, relisait avec attendrissement cette œuvre de jeunesse, n'avait-il pas quelque raison de regretter le noble enthousiasme qui l'animait alors? « Quand j'en conçus le dessin, dit-il, j'avais plus d'imagination que je n'en ai aujourd'hui. Je m'étais toute ma vie exercée en ce genre de poésie que nous nommons héroïque. C'est assurément le plus beau de tous, le plus fleuri, le plus susceptible d'ornement, et de ces figures nobles et hardies qui font une langue à part, une langue assez charmante pour mériter qu'on l'appelle la langue des dieux. » La déclaration est intéressante, mais nous n'en avions pas besoin pour savoir qu'à ce moment, La Fontaine, nourrie de Virgile, d'Ovide, de Platon, était sortie de sa petite ville avec des ambitions plus hautes que celles d'un conteur de grivoiserie pour les désœuvrés ou de moralité pour les enfants. La plupart des ouvrages qu'il entreprit alors, dont beaucoup sont restés inachevés, ont un souffle de gravité et de grandeur qui suffit à les dater. Par malheur, il arrivait trop tard. Après cette avalanche d'épopées artificielles, après les querelles puériles de Job et d'Uranie, on était là des pédants, et l'on commençait à se défier de toute littérature solennelle et grave. C'était un comédien errant, un certain Molière, dont les farces avaient amusé le Languedoc, qui attirait pour l'instant l'attention. Les précieuses ridicules, 1659, allaient bientôt sonner le glas de l'hôtel Rambouillet. On parlait aussi d'un jeune Robin qui colportait par la ville des fragments de satire mordante, dans lesquels le grand Chapelain lui-même était impitoyablement conspué. Il y avait, de toutes parts, un retour vers la réalité, la simplicité, la gaieté, qui n'était guère favorable à une rénovation du poème élégiaque ou pastoral. La Fontaine, essentiellement malléable et sensible, comme Pazin, à toutes les variations d'atmosphère, tâta les cordes de sa lyre. Il sentit que la note poétique ne trouvait plus d'écho. Il fit tinter la note plaisante. L'un de ses premiers succès dans le salon de Fouquet fut une épître, plus que risquée, en style marotique, à une fort honnête dame de religieuse, celle-là même, dit-on, avec laquelle il avait été surpris en étrange posture dans le logis conjugal. Très révérende mère en Dieu, qui révérende n'êtes guère, et qui moins encore est mère, on vous adore en certains lieux. C'est là qu'on trouve ces vers cités dans tous les traités de versification, comme exemple d'un rythme leste et pétulant qui s'adresse aux appas de la nonne. Que les champs libres on leur laisse un peu, je gage qu'on verra s'ils sortent de cage, beau jeu. Ce badinage indécent fit oublier Adonis. Madame de Sévigné le colporta partout avec enthousiasme, plaçant l'auteur entre les dieux. La Fontaine, pour remercier la marquise, lui adressa un dizain dans un style plus marotique encore. Le sort en était jeté. Des deux génies qui sommeillaient dans l'âme encore incertaine du poète docile et mobile, le génie attique et le génie gaulois, c'était le dernier, le génie gaulois, charmant mais léger, libre mais sans scrupules, qu'allait d'abord éveiller et toujours encourager le goût fatigué de la société vaniteuse et distraite dans laquelle il allait vivre. Il est possible que personnellement, Fouquet, amateur d'esprit curieux et ouvert, fut disposé à encourager chez son protégé des tentatives d'un ordre plus élevé. Mais le cercle de ses clients et adulateurs n'en cherchait pas si long. C'était pour des oisifs une bonne fortune de mettre la main sur un rimeur si adroit, tournant la pièce de circonstance avec une désinvolture si piquante et une pointe de grivoiserie si finement aiguisée. Il fallut que le poète prît en vers l'engagement de payer régulièrement, tous les 3 mois, la rente poétique que le surintendant réclamait pour le soin qu'il prenait de faire valoir ses vers. C'était les quittances des termes de sa pension. À la Saint-Jean, ce seront des madrigaux. Courts et troussés et de taille mignonne, longue lecture en été n'est pas bonne. À l'automne, pendant les vendanges, quelques menus verts. Ne dites point que ces menus présents, ces menus verts sont en vogue à présent. Au 1er janvier, une balade. À Pâques, le jour saint, ce jour-là seulement, une poésie sérieuse. Pour achever toute la pension, quelques sonnets pleins de dévotion. Ce terme-là pourrait être le pire, on me voit peu sur tel sujet écrire. Et le surintendant tenait sa comptabilité avec un soin rigoureux. Quand son débiteur le faisait attendre, il le relançait. Quand il ne lui donnait pas bonne mesure, il se plaignait. En 1660, il lui sembla que 3 madrigaux, c'était trop peu. À quoi Jean lui répondit, de ce ton goguenard et patelin qu'il excellait déjà à prendre pour faire avaler aux gens d'étonnantes impertinences et de dures vérités, que si ce n'était pas le compte de son créancier, c'était son compte à lui. Quand ces sortes de marchandises, c'est la qualité et non le volume qui importe, et que, lorsque les vers sont bons, tout homme intelligent, tout prud'homme, les prend au poids au lieu de les compter. Toutes ces fournitures trimestrielles nous ont été conservées. Si minces qu'elles fussent, notre apprenti courtisan, l'âme trop pleine encore de plus hauts rêves, longtemps suivie dans les sentiers silencieux des prairies et des bois, ne les fabriquait qu'à contre-cœur et ne les livrait qu'à la dernière extrémité. Presque toutes, péniblement martelées, exhalent l'ennui et l'effort, comme il se bat les flancs pour trouver des sujets. C'est une ode à Madame la surintendante sur ce qu'elle est accouchée avant terme dans le carrosse en revenant de Toulouse. Une autre sur la paix des Pyrénées, une troisième sur le mariage de Madame. Quand il ne trouve rien, il fait une ballade qu'il intitule carrément « Pour le premier terme » ou « Pour le second terme ». À ce second terme, il n'y tient plus. Il déclare qu'il sue, qu'il est en eau, qu'il est à bout, et prend pour refrain « Promettre est un, et tenir est un autre ». Il gâche sa besogne avec tant d'étourderie qu'en complimentant la surintendante sur son dernier accouchement, il lui arrive d'oublier le nombre de ses enfants. Il la félicite alors d'être mère de 2 amours lorsqu'il y en avait déjà 3. La légèreté était un peu forte et l'on en rit beaucoup, mais que de fantaisie et de hardiesse ne passe-t-on point à un distrait de ce calibre. Par le ton qui règne dans toutes ces poésies de commande, aussi bien que dans les épîtres ou lettres adressées à Fouquet, nous pouvons juger de la nature des rapports qui s'étaient établis entre le protégé et le protecteur. Dans l'état de nos mœurs littéraires, qui ne sont pas meilleures peut-être, mais qui sont différentes, nous avons quelque peine à nous imaginer une semblable situation sans un avilissement honteux de l'obliger. Il est bien certain que dès cette époque, il se trouvait parmi les écrivains certaines âmes plus fières auxquelles répugnaient ces apparences de servitude et qui s'efforcèrent de vivre indépendants. Mais ce furent de rares exceptions. La faiblesse de caractère qui n'avait permis à La Fontaine de diriger convenablement ni son ménage, ni ses affaires, le livrait plus que tout autre, sans défense, à un genre de séduction qui, dans les idées du temps, était un honneur pour l'écrivain qui en était l'objet. Il n'y a guère de poète, à ce moment, qui ne soit pensionné par quelqu'un, roi, prince ou grand seigneur, et celui-là seul en reste avili, qui s'est abaissé lui-même par l'humilité de son allure ou l'excès de ses flatteries. Alors, comme aujourd'hui, tant valait l'homme, tant valait l'usage, et la mendicité littéraire n'était ni plus ni moins ignoble pour s'exercer vis-à-vis de hauts personnages que pour être pratiquée dans les antichambres officielles, les officines de librairie, les coupes-gorges du journalisme. La Fontaine, sous ce rapport, ne fut meilleure ni pire que la plupart de ses contemporains. Il flatta Fouquet, il le flatta démesurément, comme il devait flatter plus tard, successivement et plus démesurément encore, Madame de Montespan et Madame de Fontanges, le roi et Colbert, le dauphin et les bâtards. Hélas, qui n'en faisait pas autant, et en fin de compte, qui cela trompait-il? Ce qu'il y a de remarquable dans ces flatteries obligatoires que La Fontaine adressait aux grands, c'est qu'elles sont le plus souvent d'une maladresse qui accuse sur le champ son embarras. Lui, si délicat et si fin lorsqu'il dit ce qu'il pense, il perd toute grâce et tout charme lorsqu'il se force et s'affecte. Sa gaucherie à exécuter toute besogne imposée fait encore en quelque sorte l'éloge de sa sincérité. Avec le surintendant, il se mit vite à l'aise, car il l'aima réellement, comme il aima tous ceux qui lui passaient ses manières distraites et ses inégalités d'humeur, et qui le laissaient vivre à sa guise. Il retrouvait sans doute, dans le magnifique et libéral surintendant, cette bienveillance familière qui, chez François Ier, déliait la langue de son aïeul Marot, et il en profitait, comme lui, avec la même désinvolture, pour traiter d'égal à égal, pour reprendre son rang, et au besoin, lancer de droite et de gauche, tout en montrant pattes de velours, tout en somnolant et en ronronnant, quelques coups de griffe en souvenir des humiliations reçues et des sottises mal digérées. L'épître dans laquelle il se plaint d'avoir fait le pied de grue en attendant Fouquet dans sa galerie d'antiquités à Saint-Mandé est un modèle de persiflage qui suppose autant d'esprit chez le patron pour l'entendre que chez le protégé pour se le permettre. J'eus le cœur gros, sans vous mentir, un demi-jour, pas davantage, car enfin ce serait dommage que prenant trop mon intérêt, vous en crussiez plus qu'il n'en est. Et il lui demande un autre rendez-vous. Je ne serai pas importun, je prendrai votre heure et la mienne, si je vois qu'on vous entretienne, j'attendrai fort paisiblement. L'amitié de Fouquet eut heureusement, pour le poète provincial, des résultats plus sérieux que celui de lui faire rimer des pièces de circonstances plus ou moins spirituelles. Elle l'introduisit dans le monde des courtisans et des gens d'affaires et compléta ainsi son expérience de la vie. Elle le mit en rapport avec ce que Paris comptait alors de plus distingué en fait d'hommes et de femmes. C'est chez Fouquet, nous l'avons vu, qu'il conquit d'emblée l'amitié sûre de Madame de Sévigné. C'est chez Fouquet, sans doute, qu'il connut Chapelain, Mademoiselle de Scudéry, Desmarets, Conrart, tout le groupe des poètes et des romanciers de la génération vieillissante, pour lesquels il devait, dans leur chute, conservaient toujours des égards affectueux. C'est chez Fouquet, enfin, qu'il se lia d'une affection rapide et vive avec le chef le plus en vue de la nouvelle école, avec celui qui était le mieux fait pour le comprendre et pour le soutenir, avec Molière. Et de quel ton heureux et triomphant il entre avec lui en campagne. C'est un ouvrage de Molière. Cet écrivain, par sa manière, charme à présent toute la cour. De la façon que son nom court, il doit être par-delà Rome. J'en suis ravie, car c'est mon homme. Nous avons changé de méthode, Jodelet n'est plus à la mode, et maintenant il ne faut pas quitter la nature d'un pas. Oui, en effet, c'est son homme, et ils s'entendirent de suite. Et lui aussi, dès ce moment, il va s'efforcer de ne plus quitter la nature d'un pas, mais sans renoncer, plus que son grand ami, à toutes les libertés acquises. Tous deux vont, avant peu, être escortés par deux jeunes cadets, Boileau et Racine. Mais à ce moment, le satirique n'a que 24 ans, il montre à peine ses premières dents, et le futur tragique, plus jeune encore, en est à ses timides essais. Si Molière et La Fontaine les connurent, dès lors il est naturel de penser que la différence d'âge maintint d'abord entre eux une certaine réserve, sinon celle d'élèves envers leur maître, au moins celle de filleuls envers leur parrain. Les jeunes gens devaient s'enhardir vite à taper sur le ventre du bonhomme, si affable et si longanime. Mais à ce moment, c'est le bonhomme avec le comédien qui leur montre la voie, la leur ouvrant plus large qu'ils ne pourront ou voudront la suivre. Malheureusement, tandis que le directeur actif et fécond de l'illustre théâtre donnait de plus en plus un libre essor à son génie, le pensionné de Fouquet, somnolent et peu pressé, continue à travailler sur commande. De 1660 à 1663, tous ses efforts semblent mollement concentrés sur un vaste ouvrage en l'honneur du patron et de sa magnificence. Le songe de Vaux ne devait jamais être achevé. Lorsque le poète le publia, tel quel, plus tard, il l'accompagna d'une préface mélancolique. J'y consumais près de 3 années. Je reprendrais ce dessin si j'avais quelque espérance qu'il réussît et qu'un tel ouvrage pût plaire aux gens d'aujourd'hui. Car la poésie lyrique et l'héroïque qui doivent y régner ne sont plus en vogue comme elles étaient alors. Sentez-vous l'amertume du temps inutilement perdu, et aussi cette pointe de regret, ce coup d'œil chagrin rejeté en arrière vers certaines hautes cimes de la poésie auxquelles il croyait pouvoir aspirer. Mais La Fontaine n'était pas homme à lutter contre un courant quelconque. C'est seulement un peu plus tard, lorsqu'il sera en pleine force et en pleine renommée, qu'il osera, quelquefois, timidement, comme par hasard, avec toutes sortes de précautions, s'abandonner, dans ses belles fables, à des élans lyriques ou des éclats épiques, faiblement accueillis désormais par les beaux esprits. Bientôt, il n'y aura plus en France que deux sortes de poésie. La poésie dramatique, de plus en plus réglée, compassée, desséchée, et la poésie didactique, pénible et froide, ou pour mieux dire, la prose rimée. Les trois fragments dont se compose le songe de Vaux, échantillon, dit-il lui-même, de l'un et l'autre style, nous font assister d'une façon curieuse à l'évolution rapide qui se fait dans ce talent impressionnable sous l'influence de la mode et des événements. Le cadre est banal, c'est un rêve, comme le roman de La Rose, le songe de Polyphile, le songe de Scipion, modèle vénérable autant qu'ennuyeux, dont l'auteur se recommande pour s'excuser. Il s'est endormi, et son rêve lui montre le château de Vaux, non pas tel qu'il est, car on y travaille encore, mais tel qu'il sera dans l'avenir. L'ouvrage devait être mêlé de vers et de prose. Les vers y sont presque toujours très supérieurs à la prose. Il est assez difficile, malgré toutes les explications que donne l'auteur, de rétablir le plan de cette grosse machine, si tant est que son indolence eût réussi à le constituer. De ce pêle-mêle incohérent de tirades didactiques, de madrigaux quintessenciers, de descriptions plastiques et pittoresques, d'allégories mythologiques, de chansons et de fables, serait-il jamais sorti rien d'harmonieux? Il est heureux, peut-être, que le monument soit resté à l'état de construction inachevée. Quelques beaux fragments, gisant sur le sol, suffisent à nous donner l'idée des agréments que l'artiste eut mis dans le décor et les accessoires, mais la peine qu'il éprouve déjà à relier ces débris par quelques supports laborieux laisse à penser que l'ensemble eût été d'un aspect fort lourd et péniblement compliqué. Le plus gros morceau, le morceau de résistance dans la première partie, est un entretien entre l'architecture, la peinture, l'horticulture et la poésie. Ces quatre dames, appelées par le maître de Vaux pour embellir sa résidence, entament une discussion théorique sur leurs mérites respectifs. Palassiane, l'architecture, explique en termes précis et élégants quel est l'art fondamental et indispensable. Apellanir, la peinture, remet à sa place cette sœur un peu fière, en lui disant qu'elle n'est qu'utile, et que le plus souvent, ce n'est point pour elle-même qu'on l'aime et qu'on l'admire, car sans le décor, on penserait peu à la maison. Son art à elle, d'ailleurs, n'est pas limité, comme celui de sa rivale. Il s'étend sur tout, sur le passé, le présent, l'avenir. Palassiane ne se tient pas pour battue, réplique, rappelle les illustres monuments dont elle a couvert la terre, tous ces ouvrages hardis dont l'imagination se trouve effrayée, ces amas de pierres qui font croire que l'Égypte a été peuplée de géants et qui ont épuisé les forces de plusieurs millions d'hommes, aussi bien que les trésors d'une longue suite de rois. L'intervention d'Orthésie, la déesse des jardins, charmante plaideuse, mais d'une beauté trop frêle et trop journalière pour qu'on pense à lui accorder le prix, n'apaise pas la querelle entre Palassiane et Apellanir. Pour les faire taire, il ne faut rien moins que l'apparition et l'éloquence de Calliope, la poésie, qui réclame, pour ses œuvres seules, l'éternité refusée aux ouvrages fragiles du ciseau et du pinceau, et qui leur dit à toutes trois nettement leur fait. D'abord à l'architecture. Elle loge les dieux, et moi je les ai faits. Puis à la peinture. La peinture, après tout, n'a droit que sur les corps. Il n'appartient qu'à moi de montrer les ressorts qui font mouvoir une âme et la rendent visible. Seul, j'expose au sens ce qui n'est pas sensible, et des mêmes couleurs qu'on peint la vérité, je leur expose encore ce qui n'a point été. Je peins, quand il me plaît, la peinture elle-même. Puis à l'horticulture. Les charmes qu'Orthésie épand sous ses ombrages sont plus beaux dans mes vers qu'en ses propres ouvrages. Elle embellit les fleurs de traits moins éclatants. C'est chez moi qu'il faut voir les trésors du printemps. À quoi Apellanir répond avec à propos que tout cela est fort bien, mais demande en quoi tout cela peut-il regarder la maison de Vaux. La dernière main n'y sera que quand mes louanges l'y auront mise, réplique Calliope. Sans moi, tant d'œuvres fameux, ignorées de nos neveux, périraient sous la poussière. Au Parnasse seulement, on compose une matière qui dure éternellement. Les juges, embarrassés, ajournent leur jugement et invitent les concurrentes à apporter chacune un échantillon de leur savoir-faire, ce qui serait une nouvelle occasion de plaisir. Les plaideuses ne sont jamais revenues, et l'on peut le regretter, car la poésie didactique et descriptive, si longtemps à la mode, a rarement parlé chez nous un langage plus juste et plus aimable à la fois. La deuxième partie du songe n'a aucun rapport avec la première qu'on avait trouvée trop grave. La mode a décidément tourné. Il faut badiner et rire. La Fontaine, là-dessus, ne se fait pas d'illusions. C'est assez de ces échantillons pour consulter le public sur ce qu'il y a de sérieux. Dans mon songe, il faut maintenant que je le consulte sur ce qu'il y a de galant. Et selon le jugement qu'il fera de l'un ou de l'autre, je me réglerai si je continue. On sait ce qu'il résulta de la consultation. Le songe en resta là, mais c'est dans le galant que le poète travaillera désormais, en homme toujours docile à l'opinion courante. Le ton soumis qu'on remarque dans les préfaces du songe se retrouvera à peu près dans celles qui accompagneront plus tard les œuvres décisives. On ne considère en France que ce qui plaît, c'est la grande règle et pour ainsi dire la seule, dit-il en tête des fables. Je m'accommoderai, s'il m'est possible, au goût de mon siècle, instruit que je suis par ma propre expérience qu'il n'y a rien de plus nécessaire, écrit-il en tête des contes. Et cette inquiétude, cette docilité, cette modestie, poussée jusqu'à une humilité déplorable qui abaissera plus d'une fois le vol de son génie, n'ont par malheur rien de forcé ni d'exagéré. C'est bien sincèrement que La Fontaine se considère longtemps encore comme un poète amateur et sans portée. Il faudra toutes sortes de pressions amicales pour lui tirer peu à peu, sans ordre, comme au hasard, de son portefeuille depuis longtemps rempli, de petits chefs-d'œuvre déjà passés par les épreuves de la lecture et des salons, mais qui restent pour lui inférieurs à sa conception. Il n'appartient qu'aux ouvrages vraiment solides et d'une souveraine beauté d'être bien reçus de tous les esprits et de tous les siècles, sans avoir d'autre passeport que le seul mérite dont ils sont pleins. Comme les miens sont fort éloignés d'un si haut degré de perfection, la prudence veut que je les garde dans mon cabinet, à moins que de bien prendre mon temps pour les en tirer. Les échantillons, comme il dit, de style badin qu'il donna dans cette seconde partie du songe, échantillons très variés, allant depuis l'apologue jusqu'au ballet, avaient été sans doute mieux accueillis. Ce n'est pas qu'il faille voir dans les aventures d'un saumon et d'un esturgeon, ou dans les amours de Mars et de Vénus, ses premiers essais en fait d'apologue ou de conte. Bon nombre de ces petites pièces étaient déjà dans son cabinet, soit terminées, soit ébauchées. En tout cas, ces divers essais nous le montrent, se livrant à un exercice préparatoire des plus utiles, celui du vers libre. Il s'en faut qu'il apporte, à toucher les cordes inégales de cet instrument délicat, la dextérité et la sûreté qu'il y déploiera plus tard. Mais l'insistance et la patience qu'il met à éprouver sa valeur au point de vue du rythme et des sonorités, à y tenter des effets nouveaux, comme un pianiste essayant des accords sur un clavier, révèle déjà un artiste supérieur. Néanmoins, comme jusqu'alors il avait plus volontiers cultivé l'alexandrin, c'est encore dans quelques grands vers qu'il jette sa note la plus poétique et la plus délicieusement voluptueuse. Comment ne pas se rappeler Ronsard consolant sur le bord de la Loire les muses délogées, lorsque nous entendons La Fontaine s'écrier, en les rencontrant à son tour dans les jardins, ratissés et peuplés de veaux. Quoi, je vous trouve ici, mes divines maîtresses, de vos monts écartés, vous cessez d'être hôtesses. Pourquoi vous vêtez-vous de robes éclatantes, muses, qu'avez-vous fait de ces jupes volantes? Avec quoi dans les bois, sans jamais vous lasser, parmi la cour de faune, on vous voyait danser? Un si grand changement a de quoi me confondre. Ah, pas une des 9 sœurs ne daigne me répondre. » Les muses se taisaient, comme le poète lui-même, lorsqu'il se reprochait, par moments, d'avoir sacrifié à une servitude brillante la liberté de sa vie et de son rêve. Chaque fois, remarquons-le, qu'il pensera à la campagne, il aura cet accent, sincère et communicatif, de regrets douloureux. Comment encore ne pas sentir, dans un autre chapitre, sous l'affectation d'une ironie badine, une amertume profonde et mal dissimulée. Il s'agit d'Apollon, vrai trésor de doctrine, berger, devin, architecte, chanteur, médecin, mais qui, malgré tant de métiers, ou parce qu'il a trop de métiers, a peine à gagner sa vie. Le dieu, savant et misérable, se résout, comme les autres, à s'humilier devant Oronte. Fouquet. Il sollicite le même emploi qu'il eut autrefois chez Admète. Il est là des vains travaux, il se rit des beaux ouvrages, il veut par monts et par veaux, dans nos prés, sur nos rivages, garder les moutons de veau, car on y gagne gros gages. À quelles conditions, hélas, pauvre Apollon! Il a juré de ne plus faire de vers que quand Oronte, Fouquet, et Sylvie, Madame Fouquet, le souhaiteront. Il gouvernera leurs troupeaux, il sera contrôleur de leurs bâtiments, il conduira la main des peintres, des statuaires, des sculpteurs. Il t'inspirera toi-même si tu écris pour plaire au héros et à l'héroïne, et non autrement. Je souris là-dessus, termine La Fontaine, et je priais Lycidas de me mener en des lieux où je puisse voir encore d'autres merveilles. Sourire triste à coup sûr, si doux et résigné qu'il soit, et qui jette une lueur attendrissante sur l'âme du poète, bien plus profonde qu'on ne le croit, qui souffrit tant, nous en donnerons d'autres preuves, de sa propre faiblesse, de cette faiblesse qu'il sentait incurable et irrésistible, et qui le condamnait, lui aussi, à garder les moutons de veau. De la même époque date ce joli poème dialogué de Climène, qui est resté dans notre pays, avant Alfred de Musset, la tentative la plus heureuse de fantaisie dramatique en dehors des règles classiques. Tentative non comprise et qui ne fut pas suivie. La scène est sur le Parnasse, un Parnasse français et très moderne. Apollon s'y plaint de ne voir presque plus de bons vers sur l'amour. C'est d'ailleurs un dieu clairvoyant et sceptique qui ne se fait aucune illusion sur la durée de sa puissance. Nous vieillissons enfin, tout autant que nous sommes, de dieux nés de la fable et forgés par les hommes. Je prévois par mon art un temps où l'univers ne se souciera plus ni d'auteur, ni de vers, où vos divinités périront et la mienne. Jouons de notre reste avant que ce temps vienne. Et pour jouer de ce reste, il prie les muses de lui dire ce qu'elles savent d'un certain Acanthe, La Fontaine, et d'une certaine Climède, Madame X, beauté de province, mais fort agréable, un couple d'amoureux qu'il a aperçu sur les bords de l'Hippocrène. Quelques muses chantent d'abord en leur honneur, chacune dans le ton qui lui sied. Melpomène et Thalie font mieux, elles mettent les deux personnages en scène, l'une jouant le rôle d'Acanthe, l'autre celui de Climène. Apollon, en homme de métier, ne cesse pas de mêler à tous ses exercices littéraires des observations critiques. C'est un pêle-mêle de confidences personnelles, de théories poétiques, de fragments d'élégies, de narrations gaillardes, de digressions galantes qui devaient sembler sans queue ni tête aux Daubignac et à leurs séquelles. Pour nous, nous ne saurions nous empêcher de penser à Shakespeare, en admirant dans cette bluette une désinvolture et une vivacité de langage, une fraîcheur d'image printanière, une souplesse et une variété de tons qui devaient disparaître de notre poésie pour longtemps. À ce Shakespeare que La Fontaine ne connut pas, mais qu'il alla rejoindre ce jour-là dans un amour commun pour la fantaisie, la vie et la nature. Au moment où le pédantisme de Boileau va succéder au pédantisme de Chapelain, avec plus de talent et d'autorité, par malheur, pour écraser l'imagination poétique, n'est-ce pas une surprise et un ravissement d'entendre cet étourdi sans importance, ce rimeur de billevesée, raillé gaiement, d'une voix fine et juste, tous ses maîtres d'école, et réclamer pour le poète toute sa liberté. Il faut que je me sois sans doute expliqué mal, car vouloir qu'on imite aucun original n'est mon but, ni ne doit non plus être le vôtre. Or ce qu'on fait passer d'une langue en une autre, c'est un bétail servile et sot, à mon avis, que les imitateurs. On dirait les brebis qui n'osent s'avancer qu'en suivant la première, et s'irait sur ses pas, jetés dans la rivière. Il faudra 2 siècles pour retrouver ce ton dans la dédicace de la coupe et les lèvres, et dans la lettre à Margot. En dehors de sa valeur poétique, Climène est une note des plus curieuses pour la biographie du poète. Il s'y découvre à plusieurs reprises avec une franchise amusante, et il y raconte quelques aventures risquées, dont la réalité ne saurait être mise en doute, car on en retrouve le souvenir en d'autres ouvrages. Sous le nom de Climène, a-t-il groupé plusieurs dames honorées de ses galanteries? Faut-il y voir l'unique objet d'une passion assez vive, la même personne à laquelle, sous le même nom, il adressait vers la même époque des élégies d'une profonde tendresse? On ne le saura jamais, sans doute. Car c'est justice à rendre, nous l'avons vu, à ce galant homme. Il fut aussi discret que changeant. Inégal à tel point que d'un moment à l'autre on ne le connaît point. Inégal en amour, en plaisir, en affaires. Tantôt gai, tantôt triste, un jour il désespère, un autre jour il croit que la chose ira bien. Pour vous en parler franc, nous n'y connaissons rien. Le terme de beauté de province donne lieu de penser qu'il s'agit d'une dame de Château-Thierry, d'une veuve difficile à consoler, si l'on s'en rapporte aux élégies. Hélas, je ne connais que l'amour d'aujourd'hui, la jalousie y joint à présent son ennui. Un mal qui m'est nouveau s'est glissé dans mon âme. Climène, un autre amant. Même après son trépas, vit dans votre mémoire. Il y vivra longtemps. Vos pleurs me le font croire. Un mort a dans la tombe emporté votre joie. Peut-être que le mort sut mieux aimer que moi. J'envie un rival mort. M'ajoutera ton foi quand je dirai qu'un mort est plus heureux que moi. Quelquefois je vous dis, c'est trop parler d'un mort. À peine on s'en est tu qu'on en reparle encore. Je porte, dites-vous, malheur à ceux que j'aime. Si nous ne nous trompons, il y a dans ces élégies des accents simples et vrais d'une affection plus grave que d'habitude et d'une souffrance qui n'est point jouée. On ne saurait donc voir dans Climène la fameuse Claudine, femme de Guillaume Colletet, que La Fontaine courtisait vers ce temps, au vu et au su de tout le monde, en buvant le vin du vieux mari, dans l'ancien jardin de Ronsard, au faubourg Saint-Marcel, sur la table même, la table de pierre, autour de laquelle avait festoyé la Pléiade. Presque tous les jeunes poètes, convives de Colletet, en faisaient autant. Claudine, ancienne servante, était non seulement d'une beauté vive et provocante, elle passait alors pour une 10e muse. On applaudissait ses vers avec enthousiasme, La Fontaine surtout. Mais Colletet étant mort en 1659, la muse se tut tout à coup et obstinément. On s'aperçut que ses vers étaient faits par son mari. Le brave défunt avait même poussé l'attention jusqu'à préparer une dernière poésie, à dire après sa mort, par laquelle sa moitié inconsolable déclarait renoncer à la poésie. Les yeux de La Fontaine, dessillés, ne trouvèrent plus en Claudine qu'une ignorante et qu'une sotte. Il en fut très dépité, s'en vengea par une épigramme un peu méchante pour lui, et qui laisse supposer quelque autre rancune, avouant de la meilleure grâce à ses amis pourquoi il avait été dupe. Cela vous est-il nouveau, et d'où venez-vous de vous étonner ainsi? Savez-vous pas bien que pour peu que j'aime, je ne vois dans les défauts d'une personne non plus qu'une taupe qui aurait 100 pieds de terre sur elle? Si vous ne vous en êtes pas aperçu, vous êtes 100 fois plus taupe que moi. Et dès que j'ai un grain d'amour, je ne manque pas d'y mêler tout ce qu'il y a d'encens dans mon magasin. Cela fait le meilleur effet du monde. Je dis des sottises en vers et en prose, et serais fâchée d'en avoir dit une qui ne fût pas solennelle. Ce qu'il y a, c'est que l'inconstance remet les choses en leur ordre. » Tandis que le poète rimait, à loisir, Climène et le songe, l'orage s'amoncelait rapidement au-dessus de cette superbe résidence de Vaux où il se croyait abrité. Le surintendant, depuis quelque temps déjà signalé à la méfiance du jeune Louis XIV par ses audacieuses entreprises auprès de Mademoiselle de Lavallière, autant que par ses irrégularités financières, fut arrêté à Nantes le 5 septembre 1661. Il venait de quitter Vaux, où il avait reçu le roi quelques jours auparavant avec une magnifique insolence qui avait hâté sa disgrâce. La Fontaine venait d'envoyer à son ami Maucroix, en mission à Rome, une description enthousiaste de ses fêtes lorsqu'il dut joindre en post-scriptum à sa longue lettre ce billet laconique et troublé. « Je ne puis te rien dire de ce que tu m'as écrit sur mes affaires, mon cher ami. Elle ne me touche pas tant que le malheur qui vient d'arriver au surintendant. Il est arrêté, et le roi est violent contre lui, au point qu'il dit avoir entre les mains des pièces qui le feront pendre. Ah, s'il le fait, il sera autrement cruel que ses ennemis, d'autant qu'il n'a pas, comme eux, intérêt d'être injuste. Adieu, mon cher ami. T'en dirais beaucoup davantage si j'avais l'esprit tranquille présentement. » Le désordre de l'écriture, l'omission d'un mot, atteste la hâte avec laquelle le billet fut écrit. La douleur n'y est ni jouée, ni surfaite. Cette catastrophe, en frappant le poète en plein cœur, lui révéla à lui-même ce qu'il y avait en lui, au milieu de toutes ses faiblesses, de force affective, de générosité foncière et d'énergie possible. Tandis que sous le coup de cette tempête imprévue, devant cette affirmation violente d'une autorité absolue, tous les anciens protégés de Fouquet, comme tous les courtisans, se taisaient, en baissant la tête, pour échapper au sort de Pélisson jeté à la Bastille. La Fontaine, à peine connue, sans fortune et sans avenir, n'hésita pas à jeter un appel retentissant de clémence vers ce jeune roi impérieux et redoutable. « Remplissez l'air de cris dans vos grottes profondes, pleurez, nymphes de Vaux, faites croître vos ondes. Si le long de vos bords Louis porte ses pas, tâchez de l'adoucir, fléchissez son courage. Il aime ses sujets. Il est juste, il est sage. Du titre de Clément, rendez-le ambitieux. C'est par là que les rois sont semblables aux dieux. Du magnanime Henri, qu'il contemple la vie, dès qu'il put se venger, il en perdit l'envie. Oronte est à présent un objet de clémence. S'il a cru les conseils d'une aveugle puissance, il est assez puni par son sort rigoureux. Et c'est être innocent que d'être malheureux. » Ce dernier vers, un des plus noblement humains qui ait jamais jailli du cœur d'un grand poète, résonna bientôt sur toutes les bouches. La pièce eut un retentissement considérable. Un an après, l'interminable procès du surintendant touchant à son terme, le poète revint à la charge. Il s'adressa cette fois directement au roi. « Va-t'en punir l'orgueil du Tibre, qu'il te souvienne que ses lois n'ont jamais rien laissé de libre que le courage des Gaulois. Mais parmi nous sois débonnaire, à cet empire si sévère tu ne te peux accoutumer, et ce serait trop te contraindre, les étrangers te doivent craindre, tes sujets te veulent aimer. » Si respectueuse qu'en fut la forme, cette fermeté de langage n'était pas pour plaire à Louis XIV et à Colbert, qui s'en souvinrent toujours. Mais elle rencontra un écho puissant dans l'opinion publique, et plus tard, l'auteur put sans vanité se rendre justice à lui-même. J'accoutumais chacun à plaindre ses malheurs. Fouquet, condamné à mort, vit sa peine commuée en une détention perpétuelle. Plusieurs de ses amis furent frappés avec lui, entre autres son substitut, Janard, l'oncle de La Fontaine, qui fut exilé à Limoges. La Fontaine suivit Janard et partagea son sort. Fût-ce uniquement par reconnaissance et par affection? Ou bien l'ordre royal s'adressait-il aux deux à la fois? Toujours est-il que le voyage se fit entre deux exempts, et qu'il fut l'occasion de ces délicieuses lettres à Madame de La Fontaine dont nous avons déjà parlé. C'est là qu'il se montre spirituel et vif, autant que pas un de ses contemporains, bien plus original que Chapelle et Bachaumont dans leurs trop célèbres lettres, bien plus sensible surtout et plus ouvert à toutes les choses de la nature, de la vie, de l'art, avec une franchise, une diversité, une couleur de langage particulière et unique. Et quelle aversion, sincère et simple, pour les jérémiades égoïstes, les sensibleries inutiles. Quelle exquise et douce façon de prendre les choses les plus fâcheuses sans assourdir les gens de ses plaintes. Oh, les âmes charmantes que ces nobles âmes! On dirait qu'ils s'embarquent pour un voyage d'agrément. Nous partîmes de Paris le 23 du courant, après que Monsieur Janard eut reçu les condoléances de quantité de personnes de condition et de ses amis. Enfin, ce n'était chez nous que procession de gens abattus et tombés des nues. Avec tout cela, je ne pleurais point, ce qui me fait croire que j'acquérais une grande réputation de constance dans cette affaire. La fantaisie de voyager m'était entrée auparavant dans l'esprit, comme si j'eusse eu des pressentiments de l'ordre du roi. Il y avait plus de 15 jours que je ne parlais d'autre chose que d'aller tantôt à Saint-Cloud, tantôt à Charonne, et j'étais honteux d'avoir tant vécu sans rien voir. Cela ne me sera plus reproché, grâce à Dieu. Et c'est sur ce ton dégagé, parfois d'une ironie alerte et fine, parfois d'une naïveté attendrie, que continue toute cette relation, entremêlée de réflexions sur les gens et sur les choses, d'un accent presque moderne. Il y a là toute une série d'impressions de nature et d'art, comme on dit aujourd'hui, qui témoignent d'une liberté de jugement, alors assez rare, chez ce casanier dont ce fut la seule sortie hors de Paris, Château-Thierry, Reims et leur banlieue. Son ardent amour pour la nature, sa simplicité et sa sincérité suffisent sur tous les points à l'éclairer beaucoup mieux que toutes les cultures scolaires ou techniques. Dès Meudon, il prend parti pour les jardins libres contre les jardins réguliers, à dessins géométriques, avec des arbres taillés et façonnés en pièces d'échecs. Il se déclare pour les bois sauvages contre le parc de Vaud. Vive la magnificence qui ne coûte qu'à la planter. À Montlhéry, il se moque des savantasses qui se chamaillent sur l'origine du mot. C'est Monte-le-Héry quand le vers est trop court et Montlhéry quand il est trop long. Au château de Blois, déjà mutilé par Gaston d'Orléans, qui a cru l'embellir, il ne s'extasie que devant les parties anciennes. Ces trois pièces ne font, Dieu merci, nulle symétrie et n'ont rapport ni convenance l'une avec l'autre. Nulle symétrie, entendez-vous, messieurs Levaux et Lebrun, vous qu'il vient de quitter et qu'il avait si fort endoctriné à Vaux lorsqu'il y préparait le dialogue du songe. Nulle symétrie, quel hérétique! Et ce qu'il admire le plus, c'est l'aile de François Ier. Parce qu'il y a force petites galeries, petits balcons, petits ornements sans régularité et sans ordre. Cela fait quelque chose de grand qui plaît. Voilà bien, n'est-ce pas, le Gaulois obstiné qui dévore en sourdine Rabelais et Marot, La Salle et Jean de Main, tandis que tout son entourage ne remonte guère au-delà de Malherbe, le Français de vieille roche, à qui l'on n'en fait point à croire. Dans le château d'Amboise, ce qu'il demande à voir avant tout, c'est le cachot où Fouquet a été enfermé. Mais le soldat qui lui servait de guide n'avait pas la clé. Je fus longtemps à considérer la porte et me fis conter la manière dont le prisonnier était gardé. Sans la nuit, on n'eût jamais pu m'arracher de cet endroit. À Port de Pile, il veut visiter le château de Richelieu. Je n'avais garde de manquer de l'aller voir. Les Allemands se détournent bien pour cela de plusieurs journées. Il paraît que si les visiteurs allemands de nos monuments étaient déjà si nombreux, en revanche, au dire du concierge, ils n'étaient pas généreux. Les deux statues de Michel-Ange, les captifs, aujourd'hui au musée du Louvre, le surprennent et l'arrêtent. Il y a un endroit qui n'est quasi qu'ébauché, soit que la mort, ne pouvant souffrir l'accomplissement d'un ouvrage qui devait être immortel, ait arrêté Michel-Ange en cet endroit-là, soit que ce grand personnage l'ait fait à dessein, et afin que la postérité reconnût que personne n'est capable de toucher une figure après lui. De quelque façon que ce soit, je n'en estime que davantage ces deux captifs, et je tiens que l'ouvrier tire autant de gloire de ce qui leur manque que de ce qui leur a donné de plus accompli. Voilà, on l'avouera, une façon de sentir et de juger qui est bien particulière et bien personnelle, et fort en avance sur les idées reçues. La réflexion par laquelle il termine sa visite dans les appartements, n'est pas celle non plus d'un homme à qui les splendeurs de Vaux auraient tourné la tête. Il y a tant d'or qu'à la fin je m'ennuyais. Et il se hâte de revenir au grand air et de gagner une fort longue pelouse et ensuite quelques allées profondes, couvertes, agréables, où à midi même on entrevoit seulement les choses. Comme au soir, quand la nuit arrive en un séjour, ou lorsqu'il n'est plus nuit, il n'est pas encore jour.